Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offerts.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables, Alfred, et on commence avec la manif du jour.
Oui, on l'a appris aujourd'hui, elle aura lieu vendredi à Périgueux pour empêcher l'arrivée d'un restaurant Burger King. Appel relayé par le syndicat agricole de la Confédération Paysanne, ce sera en fait le troisième restaurant Burger King dans l'agglomération, à l'heure où Périgueux est candidate auprès de l'UNESCO pour être labellisée ville gourmande. Le syndicat agricole fustige une décision irresponsable alors que 87% des produits de l'enseigne ne répondent pas aux critères nutritionnels de l'Organisation mondiale de la santé et qu'un enfant sur 6 en France souffre de surpoids et d'obésité.
On est à Périgueux, 3 Burger King, trop c'est trop. Ah ouais.
Nous avons vu dans cette émission la maire de Périgueux qui a essayé de faire, ils n'ont pas le pouvoir, les maires ne peuvent pas empêcher l'installation d'une entreprise. Elle a essayé de faire en sorte que voilà, c'était une autre enseigne qui voulait s'installer, là c'est Burger King, Périgueux, capitale du Périgord, donc j'allais dire épicentre d'un des patrimoines de la gastronomie française, et effectivement, j'ai connu beaucoup de maires qui étaient terrorisés à l'idée que dans leur ville s'installe cette enseigne de la malbouffe, pour eux ça c'est la malbouffe, qui va au contraire de toutes les prescriptions nutritionnelles que l'on peut donner, environnementales et autres. Ça ne veut pas dire que l'hamburger est un mauvais aliment et qu'on ne peut pas manger de temps en temps, mais ces enseignes-là sont symboles de l'américanisation.
Mais en même temps, Périquero, s'il y a un troisième restaurant Burger King qui s'installe, c'est que ça marche, c'est que les gens demandent.
Ah mais
ils en sont clients,
Vous savez que le suffrage universel donne pas toujours du pouvoir aux démocrates et que l'opinion publique a pas toujours raison. Donc c'est pas parce qu'il y a une tendance consumériste de masse qui est destructrice de l'humanité qu'on va se dire on s'incline puisque les gens en veulent.
Oui, mais justement, empêcher le restaurant, est-ce que c'est la bonne façon de lutter?
Non,
manifester contre
non. La meilleure façon de lutter, c'est d'apprendre dès l'école qu'il ne faut pas abuser de ce genre d'alimentation.
Oui, mais par exemple,
la pédagogie.
Alfred mais nous rappelait les recommandations de l'OMS en disant que c'est des restaurants qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS. Elles ne sont pas contraignantes. Pourquoi ne pas se dire, ben voilà, un restaurant, on l'installe à condition qu'il respecte les recommandations
de l'OMS. Non, mais il respecte les lois. C'est que le système alimentaire qu'il représente, le système économique et l'usage qu'ils font de l'agriculture, même s'ils se targuent de faire travailler de la pédagogie, un peu de législation.
C'est une génération.
Parce que c'est trop tard, mais il faut expliquer qu'on ne faut pas. Le problème, c'est l'abus de ces aliments-là. C'est pas l'existence, il y en aura toujours. C'est l'abus et le systématisme aujourd'hui, parce que c'est pas cher et que la facture sociale.
Si c'est cher.
Alors c'est devenu plus cher que c'est ça n'a été, mais ça reste accessible pour des gens.
Ouais.
En tout cas, c'est un symbole. C'est vraiment le symbole de la malbouffe. Plus on le réduit, mieux c'est.
Moi, je suis plus choqué, tu vois, que Burger King ait embauché le meilleur chef du monde pour faire des burgers.
Ça, c'est le stade suivant.
J'ai été très choqué.
Alors là, c'est
parce que je me dis qu'un chef qui est censé défendre le bien manger, qui prête son nom en étant tête de pont d'une campagne publicitaire de Burger King en disant fais des burgers.
J'en ai parlé pas plus tard que vendredi. Dans un cadre privé, j'en ai discuté.
C'est un sujet récurrent.
Parce qu'il faut dire les choses, on ne va pas pointer du doigt la personne en tant que telle. Tu n'es pas le premier à le faire d'ailleurs.
Il touche.
Perico, on ne va pas se leurrer.
Alors,
faut arrêter de prendre les gens pour des jambons.
Le chef dirait. Le chef en question dirait je veux bien promouvoir la marque, mais je prouve que la marque a fait un effort nutritionnel sur le type de produit, sur le.
Mais alors, c'est peut-être la vérité.
Un burger, c'est toujours un burger. Et si tu y vas tous les jours, tu seras en mauvaise santé, je suis désolé.
Ben oui, mais il y a.
Soyons honnêtes, un burger, nutritionnellement parlant, un burger, ça peut pas être bon.
4 par mois, il n'y a aucun problème.
On est d'accord, ça ne peut pas être bon pour la santé.
Alors si c'est un burger avec de la viande fraîche, de la salade fraîche, il sera pas
Le même prix. Oui, mais il y a quand même un aspect. Tu disais Rémi que les prix avaient augmenté, mais ça reste quand même.
Ah ben c'est sûr.
Oui, mais ça reste quand même pas cher. D'accord.
On peut pas dire que c'est pas cher.
Voilà.
Les pauvres sont condamnés à bouffer de la malbouffe.
Et les vrais pauvres, ils n'ont pas les moyens d'aller au Burger King. ou au McDo.
C'est une pauvreté moyenne.
Oui, mais les pauvres n'ont pas les moyens de, en ce moment, n'ont pas les moyens de bien manger.
C'est un vrai sujet de société. Et la France est le pays où on est le plus, entre guillemets, contaminé par cette forme.
On est le deuxième, on l'a déjà répété mille fois, mais pourquoi ne pas le répéter? On est le deuxième pays, le deuxième marché mondial pour McDonald's.
Du fast-food.
Et qu'est-ce qu'on se pose?
Du fast-food en général.
Allez, la baisse du jour.
Oui, malgré le retour du beau temps, le tourisme à Paris connaît un trou d'air avant les Jeux Olympiques. D'après l'Office du tourisme de la ville, l'activité touristique est en recul de 15% par rapport à la même période l'année dernière. Seulement 63% de taux d'occupation dans les hôtels cette semaine, par exemple. Le calme avant la tempête qui pousse les hôteliers à faire des gros rabais sur les nuitées.
Thierry,
c'est pas étonnant.
Pourquoi ?
Moi, je ne vais plus dans le centre de Paris. C'est devenu absolument incirculable,
impraticable,
infréquentable, sale. Enfin, c'est là aujourd'hui, on paye la note. Aujourd'hui, on paye la note. On paye
exactement.
Enfin, l'industrie du tourisme.
On s'est vu plus beau qu'on n'était.
Ah ben, mais tellement. On a tellement promis d'abord déjà que ça serait formidable et que ça l'est pas tout à fait. On a renoncé sur pas mal de choses. Je parle de la mise en beauté de notre ville par rapport aux JO. Et puis alors. Il y a un deuxième aspect aussi, hein, c'est qu'attention, aussi bien les professionnels du tourisme que les particuliers ont vu
une sorte de
nirvana. Ça allait être le top, on allait louer nos appartements quatre fois leur prix, bah, etc. Ouais. Et ça, en fait, bah, c'est pas du tout arrivé. Donc, on revient un petit peu à des choses un petit peu plus normales. Voilà, je pense que les deux phénomènes se conjuguent pour expliquer cette baisse.
Yael.
Alors, première chose, retour du beau temps, ça fait 24 heures déjà, hein, parce qu'on a eu
c'est
deux.
Ouais, c'est vrai,
voilà,
c'est
donc bon. Ouais. Deuxième chose, ça peut aussi s'expliquer. Alors évidemment, il y a des quartiers, c'est des véritables poubelles. On ne peut pas circuler. Enfin, je veux dire, c'est un enfer. Si on avait des métros qui circulaient correctement, bon ben, on pourrait pallier. Et il y a aussi l'insécurité. Hein. La très forte insécurité. Je veux dire, il y a des viols de rue à Paris, de touristes, au Champ de Mars.
Enfin,
je veux dire, il y a de quoi quand même jeter un petit froid. Voilà, niveau tourisme, tout de même. Donc, voilà.
Un bémol, il y a encore Périco. Des secteurs du tourisme qui marchent très très bien et qui font des profits gigantesques et il y a une partie qui est pénalisée. Vous avez oublié une réalité. Les prix commencent à devenir terrifiants pour
bien sûr.
Catégorie sociale. Bah, oui. De touristes, ils viennent juste, ils repartent. Et ensuite, tout ce que mes amis ont évoqué là, cette ville qui était sublime en termes de visite mondiale, c'était vraiment la ville du tourisme des étrangers. Et j'ai des amis intimes, allemands, belges, anglais, qui venaient par la gare du Nord, par la gare de l'Est.
J'allais parler de la gare du Nord.
Pour un oui, pour un non, pour des affaires, ils ne veulent plus. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette ville ?
Moi qui fréquente la gare du Nord tous les jours,
oui,
matin et soir.
Je sais bien.
Je suis en train de voir ce qu'ils allaient faire pour les JO, parce que c'est quand même un lieu qui arrive. Nos amis britanniques arrivent tous par là, et néerlandais et belges. Pour l'instant, rien n'a changé. Ils ont mis des banderoles avec des drapeaux de tous les pays pour les JO. Il y a une boutique JO en plein milieu, qui est très moche d'ailleurs. C'est mon avis. Et la façade, sur la façade, bienvenue à Paris, Paris JO, Paris 2024. Pour l'instant, c'est le seul changement que j'ai vu.
Macron a dissous l'Assemblée nationale et Anne Hidalgo a dissous Paris.
Bon. Allez, l'inflation du jour.
Oui, elle concerne des milliers d'écrevisses de Louisiane qui envahissent l'ouest de la France. Après les pluies de ces dernières semaines, le crustacé envahit les routes, les jardins et les rivières. Ces colonies qui circulent parfois par dizaines pullulent grâce au changement climatique et aux hivers plus doux que connaît notre pays. Et elles terrorisent surtout les pêcheurs parce que l'écrevisse tue les poissons, mettant à mal l'équilibre de la faune et de la flore. Prise de court, les autorités n'ont pour le moment aucune solution pour lutter contre la prolifération.
Ce genre d'événement, Perico, c'est ce qui nous attend dans les mois, les années qui viennent, de plus en plus. Hein.
Film de science-fiction, heureusement qu'elles ne sont pas géantes. L'écrevisse est le symbole, j'allais dire, du patrimoine naturel fluvial français, avec un élément culinaire gastronomique fabuleux, le buisson d'écrevisse. Cette variété européenne française s'appelait Astacus astacus. Elle a disparu parce qu'elle a été colonisée par une première variété américaine qui n'était pas nocive. Et là, on a celle-ci, je la connais. Elle est agressive même quand on met la main, elle pince. Voyez, elle a envahi une partie de l'Espagne. Elle est comestible, hein, attention. Mais elle est en train de ravager. L'écrevisse, c'est un petit homard, hein, quelque part. Mais c'est un prédateur épouvantable. Oui, oui, alors il va falloir relancer l'activité d'écrevisse, là, vous voyez. Et Dieu sait s'il y a des recettes. Mais effectivement, c'est un prédateur très agressif. Elle est en train... Alors, on a le silure, déjà, qui est en train de vider les rivières et les fleuves de France de nos poissons habituels. Le brochet, la perche, le goujon, le gardon. Et là, maintenant, on a l'écrevisse américaine qui vient...
Qui tue les alvins.
Ouais. Voilà, on est confronté à un phénomène écologique, un désastre écologique irréversible, et le ragondin qui était là aussi qu'on a élevé
le ragondin,
mais sauf que là la reproduction est la multiplicité la courbe fait qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont sinistrés des berges de rivière par les ragondins.
Le ragondin, c'est très
bien. Justement, c'est ça le problème.
Bonjour, des écrevisses et du pâté de ragondin,
c'était pour faire de la fourrure, ça n'a pas marché, mais ils se sont reproduits, les pauvres, voilà. Donc on est mal barré. Bon, en tout cas, voilà, il faut revenir au gratin d'écrevisses.
Tu as l'air terrifié.
La crevisse, oh là là, ça me fait peur. Ah non, je m'imagine
en train de te promener en Vendée sur les bords d'une petite rivière, sur une route.
Déjà, moi, c'est
chemin forestier et soudain, déjà, quinzaine d'écrevisses qui
t'attaquent
dessus.
Mais moi, déjà, mer Méditerranée, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même.
La Méditerranée, on a pris un coup aussi. Hein.
Ouais, les méduses.
Ouais, les méduses. Bon, allez. La réouverture du jour.
Oui, c'est ce soir que l'autoroute A13 rouvre complètement. Deux mois après sa fermeture pour cause de fissure, l'axe qui relie la Normandie à Paris sera de nouveau opérationnel. 100 000 automobilistes l'empruntent chaque jour et devaient depuis le mois d'avril dernier emprunter des itinéraires alternatifs bondés qui rajoutaient et qui rallongeaient considérablement leur temps de trajet.
Thierry Moreau va revivre.
Je confirme. Je suis obligé de partir un peu plus tôt pour être à l'heure, pour rester le midi, ce qui n'est pas un problème. Hein, mais c'est vrai que ça va être un ouf de soulagement. C'est dire à quel point aujourd'hui on se rend pas compte des choses qui nous paraissent extrêmement naturelles et simples, donc une route en l'occurrence, pour un problème de fondation qui est gravissime, hein, parce qu'évidemment, s'ils ont coupé, c'est par principe de précaution pour pas que la route s'écroule. Donc ils ont mis beaucoup de temps à refaire les fondations de cette route pour qu'elle tienne le coup, mais c'est une artère essentielle d'arriver dans Paris, et le fait de l'arrêter a été un problème depuis ça fait deux mois maintenant que
c'est
dur.
C'est ça.
Donc c'est compliqué, donc ouf de soulagement.
Et c'est preuve aussi que la voiture reste indispensable pour des millions de Français au quotidien.
Oui. Je roule en électrique.
Ça signale quand même que cet immense corps de l'État qui était les ponts et chaussées aussi eux-mêmes, comme tous les autres services, une petite défaillance technique.
On a laissé nos routes à l'abandon depuis des dizaines d'années, parce que c'est des investissements qui ne se voient pas. C'est-à-dire quand l'État met de l'argent dans les routes, évidemment, ça ne se voit pas. Sauf qu'on le paye au bout de 20 ou 30 ans. Et là, ce que dit Péricot, j'adhère complètement.
Au moment de l'incident du pont de Mirepoix, le Sénat avait fait une enquête publique. Il y a 25 000 ponts et voies qui sont en état de...
délabrement.
C'est super anxiogène, là. Très anxiogène.
Bien sûr.
Allez, on termine avec l'évasion du jour, Alfred.
14 étrangers détenus au centre de rétention administrative de Vincennes se sont évadés samedi. Les fugitifs ont réussi à sectionner le toit grillagé du centre. Un seul fuyard a été retrouvé. Les 13 autres sont toujours dans la nature. Tous ces étrangers faisaient l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de leur renvoi forcé. D'après une source policière, aucun profil à risque n'est toutefois à signaler.
Yael.
Je ne sais pas, parce qu'il me semble que sur les 13 qui sont encore dans la nature, il y en a qui venaient de sortir de prison.
Oui.
D'accord. Donc, a priori, quand on sort de prison, c'est qu'on a un profil inquiétant.
C'est qu'on a fait une connerie.
On a fait quelque chose de pas bien. Oui. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas communiqué, justement, sur la nature des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés. Donc, moi, je suis pas très, très rassurée, en réalité.
Et est-ce que tu es étonnée par, même si c'est
enfin, mais c'est pas la première fois, me semble-t-il.
C'est la deuxième fois.
On a l'impression que c'est tellement facile.
Ah, mais
ce ne sont pas des prisons. Il faut
c'est vrai,
un peu différent. Un centre de détention, une maison d'arrêt, c'est une prison, on est condamné, on est en attente d'être condamné. Le centre de rétention, c'est un endroit où on vous met en attendant une décision.
Ouais, et où tu es retenu.
Donc
quand même.
On vous empêche d'aller vaquer sur le territoire et vous n'êtes pas emprisonné. Alors après, on peut décider.
Ah oui, mais tu n'as pas le droit de circuler, normalement.
Ils ont perforé le toit pour sortir et ensuite ils ont défait le grillage.
Facile.
C'est pas une privation de liberté.
Non, mais c'est pas une privation de liberté. Mais enfin, c'est quand même révélateur, je pense. Je ne sais pas. Mais de l'état lamentable dans lequel sont nos centres de rétention, nos centres éducatifs fermés pour les ados, nos prisons. On a vu avec le drame qui est survenu avec les gardiens pénitentiaires qui ont été abattus lors de l'évasion de Mohamed Amra. On a vu ensuite, on a découvert des choses incroyables sur la manière dont ils pouvaient vivre en détention, où se procurer des téléphones, recevoir des gens qui n'étaient pas là.
Oui, c'est plutôt liberté, égalité, passoire.